Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette période d'ébullition sociale, voici l'émission numéro 4 du comité de soutien de Vincenzo Vecchi à Rochefort-en-Terre, Morbihan. Vincenzo, notre ami, est sorti de la maison d'arrêt de Vezin-le-Coquet près de Rennes le 15 novembre dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Vincenzo Vecchi, rappelons sommairement qu'il est arrêté le 8 août dans le cadre de l'application de deux mandats d'arrêt européens afin d'être renvoyé en Italie, où l'attente une peine de 12 ans pour avoir participé au G8 à Gênes et à une manifestation antifasciste à Milan. Ce vendredi 15 novembre, la Cour d'appel de Rennes rend sa décision quant à l'application des mandats d'arrêt européens. Un groupe d'une centaine de personnes se trouve comme de coutume réuni devant le Parlement. À 9h45, le tribunal annonce la nullité des mandats de Milan et de Gênes. Vincenzo est libre.
Nous sommes extrêmement heureux, bien sûr, comme vous, de la décision qui a été rendue. C'est une décision juste et c'est une décision en plus que nous n'avions pas encore lue intégralement, mais qui annule le mandat d'arrêt européen. Cela veut donc dire que les moyens que nous avions soulevés auprès de la Chambre de l'instruction ici pour dire que cette procédure, depuis le début, était irrégulière, qu'elle était aussi inexacte, que les autorités italiennes avaient menti à l'État français en évoquant des décisions de justice qui, pour partie, n'existaient pas ou n'étaient plus exécutoires, que par ailleurs, ni l'Italie, ni certaines formalités en France n'avaient été accomplies. Nous pensons que tout cela a été entendu et donc nous sommes très heureux de pouvoir vous confirmer la mise en liberté de M. Vecchi très rapidement dans la journée. La Cour a constaté que le mandat d'arrêt pour Milan n'existait pas,
purgé,
puisque la peine avait été exécutée.
Était sans objet,
puisque nous l'avons dit dès le départ. Effectivement, cette décision n'existait plus. L'Italie ne pouvait pas s'en prévaloir. Et pour ce qui concerne la décision de Gênes, de toute façon, elle n'est pas exécutoire. Le mandat d'arrêt européen ayant été annulé purement et simplement. Maintenant, nous verrons avec M. Vecchi la suite de son séjour sur le territoire français auquel il est extrêmement attaché.
C'est d'abord le mouvement de solidarité qui a été mis en place à Rochefort-en-Terre et au Café de la Pente qui a amené cette décision de justice aujourd'hui. Rien n'était possible sans le comité de soutien.
Éric Vuillard, membre du comité de soutien.
Je pense que c'est une décision qui d'abord va correspondre à deux choses, correspond au droit, puisque le droit est un système quand même contraignant aussi. Mais comme le droit est toujours une interprétation, c'est aussi une décision qui est courageuse. C'est-à-dire, c'est une décision qui manifeste un point de vue. Donc ça c'est la première chose. La seconde, c'est que évidemment ça ne résout pas tous les problèmes, puisqu'au fond, Vincenzo Vecchi est maintenant en France, il ne peut pas retourner en Italie où il a de la famille, il ne peut pas aller dans d'autres pays européens, donc ça pose un problème quant à ce qu'on appelle la politique pénale européenne quand même. C'est-à-dire, au fond, ça montre qu'il n'y en a pas d'une certaine manière. Que le mandat d'arrêt européen, c'est juste on échange les individus comme des marchandises, puisque en somme maintenant, il est en France. Donc il n'y a pas de réciprocité, si vous voulez, c'est très curieux. Il y a un pays d'émission, il émet un mandat d'arrêt. Voilà, le mandat d'arrêt lui est valable dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, mais en revanche, quand le mandat d'arrêt est cassé ou infirmé, eh bien cette décision n'est pas valable partout. Donc c'est tout de même ça très, très curieux, très bancal. Ça signifie au fond qu'il n'y a pas d'espace juridique européen, pas du tout.
Vous étiez battu quand même beaucoup pour sa libération.
Beaucoup de gens se sont battus. Enfin, d'abord, il y a eu une mobilisation qui est forte. Ça, c'est un point important. Il y a eu, je crois, aussi la presse progressivement a bien couvert, au fond, cette affaire. Donc voilà, tout ça, c'est encourageant, puisque ça s'inscrit quand même dans un climat très général de répression des libertés publiques, de répression du droit de manifester. Donc voilà, c'est pas rien de ce point de vue-là. Il y a c'est une victoire qui s'inscrit dans un paysage plutôt sinistre de ce point de vue en Europe tout de même. Hein. Et au long cours, c'est-à-dire, il y a une dégradation progressive des libertés publiques, une atteinte progressive aux droits fondamentaux, et on s'en accommode comme ça. Et bon, là, au moins, voilà une décision positive.
C'est ça le combat fondamental derrière cette affaire spécifique ?
Bah, c'est qu'en tout cas, elle s'inscrit là-dedans. Et puis, je pense que c'est un combat très collectif. Et il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui aujourd'hui, ils sont sensibles. Je parle, il y a le livre qui est sorti, le beau livre de Sureau, Sans la liberté. Vous voyez, c'est un ancien conseiller d'État, avocat, spécialiste de ces choses, et qui va jusqu'à nous dire qu'il n'y a plus de liberté en France. Bon, c'est pas un fanatique, François Sureau. Donc, c'est un point de vue qui mérite d'être médité, je pense. Et la décision d'aujourd'hui va dans un sens qui nous... Bon, ça nous réjouit, évidemment, d'abord individuellement, puisque le problème de la liberté, c'est qu'elle est toujours aussi quelque chose... Elle commence par une personne. L'égalité, c'est plusieurs. La liberté, c'est une. Donc, quand la liberté d'une seule personne est en cause, c'est la liberté de tous qui est en jeu. La liberté, c'est pas qu'un mot. Il y a toujours quelqu'un derrière la liberté. Il y a toujours quelqu'un qui souffre, qui est enfermé, etc. Donc, là, c'est Vincenzo Vecchi. Il va pouvoir être remis en liberté aussitôt. Donc, c'est un point très bon. Mais en même temps, évidemment, ça concerne tout le monde. C'est ça qu'il y a de particulier avec ce concept, avec qu'est la liberté. C'est que ça paraît être quelque chose d'abstrait. En réalité, c'est extrêmement concret. Ça regarde une personne, mais en réalité, le sort de cette personne irradie sur tous.
Un pensiero, nostra patria e il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Beaucoup de monde qui aurait voulu être là, et surtout, permettez-moi, beaucoup de monde qui est en Italie, à Milan et dans d'autres lieux. Ils se sont mobilisés en simultané avec vous, nous, ici, devant les consulats de France à Milan, dernièrement aussi, individuellement, devant les consulats français de Gênes pour dire « Moi, j'étais, je suis, je serai ». Et dernière, c'est arrivé la maman de Carlo Giuliani et nous a fait une déclaration par téléphone en disant, mais moi, bien sûr, je me solidarise totalement avec Vincenzo.
Alors on est devant le centre pénitentiaire, donc il y a un grand mur en béton, c'est très bucolique, il y a des moutons.
Et voilà, il est sorti.
Donc à partir de la libération, le 15 novembre, c'est un jour de fête. Un peu gâché pour certains d'entre nous, ceux qui étaient plus en phase liés aux avocats, puisque très vite on a su, c'est-à-dire en fin de journée du 15, on a su que, sans doute, le parquet se faisait un pourvoi en cassation. Donc à partir du 15 au soir et du 16, la cassation devient une quasi-certitude. Et là, on commence effectivement à s'y préparer et à voir quelles sont les différentes hypothèses à partir de là. Il y avait deux scénarios possibles. Donc les deux cas réels qui nous intéressent, c'était soit la Cour de cassation ne casse pas la décision de la Cour de Rennes, la Cour d'appel de Rennes, et décide qu'effectivement, ce qui a été acté au tribunal de Rennes est juste, et que voilà, donc la Cour de cassation entérine la décision de la Cour de Rennes en disant « Monsieur Vecchi est libre, il est remis en liberté, et la raison de la faute du procureur général ». En principe, ça s'arrête là. Ou bien, deuxième hypothèse, la Cour de cassation dit « Ah ben oui, effectivement, peut-être que ça se rediscute, tout ça, donc on va casser la décision du tribunal de Rennes ». Et à ce moment-là, on repart dans une procédure identique, entre guillemets, à la précédente, c'est-à-dire une procédure d'appel, avec les différentes phases qu'on a connues. En revanche, avec un autre lieu, ou si c'est pas un autre lieu, si c'est pas une autre ville, en tout cas avec une autre constitution de la Cour. Donc voilà où on en est. En tout cas, ce qui est vraiment important pour nous, c'est la nécessité que Vincenzo sorte complètement de ce personnage que les médias et le pouvoir, italien et français, ont voulu lui donner, c'est-à-dire celui d'un clandestin, de quelqu'un qui vient de l'ombre, qui est certainement quelque part un malfaiteur. Je me souviens des premiers termes, tout début août, où il y avait je ne sais plus quel journal qui parlait d'un quelqu'un qui était en cavale, qui avait rejoint son ex-maîtresse. C'est des termes qui étaient volontairement honteux, inquiétant pour la personne qui lit le journal tranquillement et qui se dit « Oh là là, mais c'est un terrible, dangereux malfaiteur, cette personne-là. »
Genova schiacciata sul mare sembra cercare respiro a largo verso l'orizzonte. Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'anima forte. Genova che si perde in centro, nei labirintici vecchi carrugi. Parole antiche nuove, sparate a colpi come d'archibugi. Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera. Sfera di sola, piombo, rombo di gente, tesa atmosfera. Nero blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia.
Vincent, à peine libéré, est renvoyé en cassation. En Italie, un déchaînement médiatique pour critiquer sa mise en liberté, des enquêtes à propos des manifestants en faveur de Vincenzo, son ex-compagne soumise à une enquête l'accusant d'avoir gardé des contacts avec lui. Nous sommes retournés questionner le souvenir d'Eugène pour tenter de comprendre les raisons de cet acharnement.
Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini.
Ma il ricordo di Genova è che è stato
un souvenir de Gênes.
Delle giornate più terribili,
c'est que ça a été parmi les journées
italiano.
Les plus terribles de l'après-guerre italienne. Je crois que ça a surpassé tout, même les morts de Reggio Emilia. Ça a été un massacre. Un massacre en particulier dans l'école Diaz. En fait, tout avait été organisé avant. Pendant la manifestation, il y a eu cette histoire de Black Bloc. Il y avait des Black Blocs avec les tuteneres, il y avait des cordons de sécurité des manifestants avec les tutte bianche. Ils tapaient sur les tutte bianche, mais laissaient les tuteneres tranquilles. J'ai alors commencé à soupçonner que c'était des policiers. Pas tous, évidemment. Il y avait alors, et il y a toujours des jeunes qui disent qu'il faut casser les vitrines. Mais je crois que ceux-là sont surtout téléguidés par les forces du désordre. Et le capital se sert du désordre pour contrôler l'État. Et je me souviens qu'à Gênes, chose étrange, le ministre de l'Intérieur italien, le fasciste Gianfranco Fini, était à la préfecture. L'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ceux qui avaient fait tout ça ont été ensuite promus. Que ce soit avec le centre droite ou le centre gauche, tout s'est passé de la même manière. Tous les généraux et colonels ont été promus. Et en réalité, même avec la condamnation, on n'a jamais su qui était le commanditaire. Selon moi, c'était le gouvernement. Que faisait Gianfranco Fini à la préfecture ? Il n'a pas vu que les choses dégénéraient. Il n'y a pas mis fin parce que tout avait été décidé avant. Tout ce qui est arrivé devait arriver, mais de manière organisée. Ça n'avait rien de spontané.
La cosa principale, che è più fastidiosa,
le principal et le plus ennuyeux, c'est qu'on n'a en réalité aucun coupable. Il y a cette sentence de la Cour, mais elle n'est pas prise très au sérieux.
Cosa si ripercuote su Vincenzo?
Che pensi tu du fait qu'on poursuive encore Vincenzo?
Ma credo che sia un capo espiatorio.
Je crois que c'est un bouc émissaire.
Alcuni mesi fa, quando c'era ancora il governo,
il y a quelques mois, quand il y avait encore Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur,
in una diatriba con
dans une dispute
Macron,
avec Macron,
si incazzò Salvini.
Salvini s'est mis en rogne et il a dit ces mots dont je me souviens très bien. Macron ferait mieux de nous renvoyer tous les délinquants italiens qui sont en France. Je crois que Vincenzo est la première victime.
Expérience Genoa 2001.
Mon expérience de Gênes en 2001, c'est le samedi 21 juillet, le lendemain de la mort de Carlo Giuliani. J'essaie d'entrer dans Gênes le vendredi 20 en venant de la France, mais je n'y arrive pas.
Di ponente, il 20 non sono riuscito a entrare a Genova. Era tutta bloccata.
Tout est bloqué.
Il 21 luglio, dopo la morte di Carlo Giuliani,
le 21 juillet, après la mort de Carlo Giuliani,
vado in macchina, insieme a un
je
mio
pars
amico
en voiture au matin pour aller manifester avec un ami
insieme alla mia fidanzata,
qui vit à Barcelone et ma fidanzée.
Ci mettiamo nel percorso insieme a quella, a Fiom. All'inizio con la Fiom eravamo.
Au début, on se rejoint au cortège de la Fiom.
A un certo punto, il cordone della Fiom,
Fédération italienne des ouvriers métallurgistes.
Lo superiamo.
On avance d'abord avec la Fiom, puis on quitte leur cortège, qui était plutôt bien organisé.
Ho cercato di raggiungere, diciamo, la testa.
Je veux avancer pour retrouver ma chorale
et la fanfare. Perché a quel punto,
je cherche donc à gagner la tête du cortège.
Nel lungomare,
c'est une énorme erreur.
Ricordo che c'era una situazione
au moment où je quitte la Fiom, le cortège était très morcelé sur le fond de mer. La police charge directement le cortège de façon très violente.
Io, questo mio amico, allora io dico, la situazione poi è stata confusa.
La situation est confuse après ça. Je propose à mon ami de retourner vers le cortège de la Fiom, qui est déjà bien loin derrière à ce moment-là. Finalement, on décide de s'échapper par les rues qui montent. Sorti du cortège, tout paraît tranquille, normal. On se dirige vers la clinique de Montalegro. On monte donc vers la montagne. À ce moment-là, on rencontre des gens dispersés qui fuient les gaz lacrymogènes et tout ça.
Ci fermiamo praticamente fuori dall'entrata dell'ospedale.
On s'arrête devant l'entrée de l'hôpital.
E, mi ricordo, grave errore, qualcuno si toglie le
scarpe. Quelqu'un enlève ses chaussures. Grave erreur.
Non si sa mai.
Je lui dis, remettez-les, on ne sait jamais.
Ci si ferma, ci si mette lì, fuma una
sigaretta. On s'est donc arrêté un peu. On fume des cigarettes et tout ça.
Io scappo.
C'est là qu'arrivent des fumigènes.
Prendo la mia ragazza
et je cerco di entrare nella clinica. Je prends ma copine et j'essaie d'entrer dans la clinique. Mais il y a des travaux en cours. Il faut faire un saut dans le vide. Ma copine ne se sent pas de le faire. Mais mon ami saute. La rue se divise ensuite en deux et devient très étroite. Je dis, si les blindés arrivent, ils ne pourront pas passer par là. Et je fuis par la rue la plus étroite. J'avance un peu dans cette ruelle. Il y a ces murs typiques de Gênes qui croulent un peu. J'entends un bordel hallucinant. Ma copine est restée un peu en arrière.
Une
Jeep arrive alors et passe en rasant les murs de cette ruelle qui monte.
Mi ricordo la scena perché allora dico alla mia
fidanzata,
Anna, buttati contro
Anna,
il muro, buttati
jette-toi contro il muro, sinon ils vont t'écraser.
La Jeep si ferma.
La Jeep en question s'arrête.
Scendono e ne arriva un'altra anche dietro, arriva un'altra.
Une autre Jeep arrive tout de suite derrière.
E iniziano a pestarla.
Ils s'arrêtent et commencent à la frapper.
Io torno indietro gridando.
Je fais demi-tour en criant. Ma carte d'identité à la main.
Faccio, no, fermi.
Arrêtez, c'est une erreur.
Arrivo lì.
J'arrive sur place.
Cerco di portare via la mia fidanzata.
La rue était très étroite.
Prima da davanti, ma poi
j'essaie d'emmener ma fiancée, mais il y en a un qui saute de la Jeep et qui m'arrive dans le dos. Il commence à me frapper.
À
ce moment-là, ils arrêtent.
C'era un muro che
j'essaie de fuir par une partie du mur qui s'est écroulé. Ils
repartent.
J'étais à un angle où je pouvais me préparer. Ma fiancée était aussi là.
La Jeep
repart.
praticamente sotto c'era lo strapiombo, perché era rotto il muro praticamente della... Di queste, diciamo,
elle est sur un surplomb parce que les murs de cette clinique étaient effondrés.
Partono e mi aprono la portiera.
Ils passent en ouvrant la portière sur moi.
Attaccato al muro, ma mi taglio il braccio, però
je suis resté collé au mur, mais ça m'a taillé del bras. J'ai réussi à ne pas tomber.
In velocità è partito con
ils sont partis à toute vitesse avec la Jeep.
Preso tutto il lato.
Ça m'a atteint sur tout le côté gauche, sinistro, no? Mais je ne suis pas tombé. Mon bras a été un peu tailladé contre le mur, mais je ne suis pas tombé. Les jeeps ont alors avancé. Elles nous ont dépassés et sont allées vers le haut. À un certain point, la rue devait être fermée. Mon ami qui avait réussi à entrer dans la clinique vient en dessous. Il y avait un saut de plus ou moins 2,5 mètres, 3 mètres à faire. Je commence à descendre et j'aide ma fiancée à descendre. C'est là que je m'aperçois que je perds beaucoup de sang de la tête. Mais j'arrive à descendre jusqu'à la clinique. Je m'allonge par terre parce que je perds beaucoup de sang.
E quindi sono praticamente su questo pavimento della clinica esterna.
Je me retrouve donc sur le sol de la cour externe de la clinique.
La mia ragazza si nasconde nei cespugli e
ma copine e mon ami se cachent dans des buissons.
I medici della clinica. Escono questi medici.
Les médecins de la clinique sortent.
Signora, mi ricordo questa infermiera doveva essere.
Je me souviens d'une femme qui devait être infirmière.
Per terra.
Il y avait aussi ce médecin qui m'aidait à rester par terre.
Le jeep.
À ce moment-là, les jeeps reviennent. Chose importante, je n'avais vu aucun visage lors de la première agression. Ils avaient tous le visage masqué d'un foulard et ils portaient le casque. Mais quand ils sont revenus, la jeep s'arrête, l'un d'eux enlève son casque. Il prend un fusil et le pointe sur moi. J'étais par terre. Mais cette infirmière et ce médecin sont sortis pour se mettre devant. Il commence à crier. Enfoiré, je t'ai vu, lève-toi. Une infirmière m'a dit, ne te lève pas, sinon ils vont tirer, reste à terre. J'avais pensé essayer de me lever, mais je reste à terre. Le médecin et l'infirmière se mettent devant. Les autres essaient d'ouvrir une petite porte qui était de côté, mais qui aurait sûrement dû donner sur le vide. À cause des travaux, ce passage vers la clinique ne devait plus exister. Ils n'arrivent pas à ouvrir, ils continuent à crier. Alors ils vont vers l'entrée principale et commencent à taper dessus. Mais les médecins ne les font pas entrer en disant
« Non, il est blessé.
On est des médecins, on le garde ici. » Ils ne les ont pas fait entrer. Les autres s'en vont. Tout paraissait terminé. Mais les mêmes médecins reviennent me dire qu'ils ont appelé la clinique et qu'ils allaient arriver avec un mandat du juge. Alors ils nous ont dit de partir. Ils nous font sortir de là
et nous sortons. La situazione è totalmente irreale,
et la situation devient alors complètement irréelle. On redescend plus ou moins. Il y a des gens dispersés partout. Je décide d'appeler des amis pour demander. J'ai la tête cassée. Qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit de ne pas aller à l'hôpital parce qu'ils en arrêtent dans tous les hôpitaux. C'était des amis légistes qui étaient à Gênes. Suite à ça, je décide alors de reprendre la voiture. Entre-temps, une autre fille s'est jointe à nous. Elle n'arrêtait pas de pleurer, en pleine crise de nerfs. Il y avait aussi moi, cet ami qui venait de Barcelone, et Anna. Anna avait aussi été frappée, mais surtout à coups de pied. Elle n'avait pas de blessure qui saignait. Je vois une ambulance et je leur demande ce que je dois faire. Ils me disent, allez à l'hôpital, parce qu'on ne peut rien faire. Mais je décide de ne pas aller à l'hôpital. Je leur dis que je compte prendre la voiture et aller dans un autre hôpital. Ils me disent, retournez à Milan si vous y arrivez, ou dans n'importe quel hôpital. Mais pas à Gênes. Alors j'ai repris la voiture. Je suis entré sur l'autoroute. J'avais l'impression d'avoir du sang partout. Je prends l'autoroute.
Mais pourquoi ils ne t'ont pas soigné à la clinique Montalegro?
Ils m'ont fait partir parce que les types de la Jeep allaient revenir nous prendre. C'était quand j'étais par terre. Donc je reprends la voiture. J'avais demandé à l'ambulancier de me mettre un pansement, mais il m'avait dit « Non, il faut aller à l'hôpital, la blessure est étendue et assez profonde. »
Je
décide donc de reprendre la voiture et d'aller à l'hôpital de Savona.
Attenzione, il tutto è iniziato verso le 5 del pomeriggio, 4-5, adesso non so
quello lì. Attenzione, tutto aveva cominciato verso 16
o 17 ore. Però io quando arrivo a Savona all'ospedale, entro
Quand j'arrive à l'hôpital de Savona, les médecins me demandent ce qui s'est passé. Je dis, je suis tombé sur les rochers. Je ne voulais pas dire directement ce qui s'était passé, parce que je me méfiais de tout le monde à ce moment-là. Je ne comprenais pas la situation. Ils me disent, il y a un paquet de monde aujourd'hui, mais venez. Ils me cousent immédiatement. Ça m'étonne. Et ils me disent, on vous recoue immédiatement. Et on vous fait partir. Les policiers sont en train de manger. Ils m'ont fait deux points de suture à la tête et m'ont fait partir à toute vitesse, sans remplir aucun papier. Pendant qu'ils me recousaient, je les ai entendus dire à propos de quelqu'un d'autre qui avait dû être blessé ou arrêté. Quelle honte! Ils lui ont éclaté la rate à coups de pied, ou un truc du genre. Et moi, j'entendais tout ça. En tout cas, j'écoute leur conseil. À peine recousu, je reprends la route. Je prends l'autoroute et je vais dormir chez un ami. En tout cas, la blessure à la tête, c'était une chose. Mais le coup que m'avait causé la portière avait été très fort. Pendant plusieurs mois, je pouvais à peine me plier et m'asseoir. Ça m'avait pris tout le côté. Deux jours plus tard, je rentre à Milan. J'appelle Radio Popolare. Parce qu'à ce moment-là, ils prennent des appels des auditeurs. Je raconte toute cette histoire à Piero Scaramucci, animateur de la Radio Popolare. Mais je n'ai pas dit qui j'étais, ni avec qui j'étais, parce qu'on ne comprenait pas trop ce qui se passait. La situation était vraiment confuse. Je ne précise rien. Je dis juste que je voulais rejoindre ma chorale et tout ça.
E poi, vabbè, finisco l'intervista che con
je termine cette entrevue avec Scaramucci et je réalise tout à coup que j'ai appelé de la maison.
Ho pensato, adesso sono identificabile.
Je me suis dit que j'étais identifiable maintenant.
Avevo paura
à ce moment-là, je craignais des représailles.
Visto quello che era accaduto, non
avec ce qui s'était passé, on ne savait pas ce qui pourrait se passer.
Di non stare più
je décide
a casa
alors
mia
de ne plus habiter chez moi
cioè,
quelque temps.
Che io per un mesetto non sono stato ospite da compagni in giro per
pendant
varie case.
Mois, j'ai été accueilli par des camarades dans différentes maisons, mais pas chez moi, parce qu'il y avait vraiment de la peur. Ce n'est pas fini. Quand j'étais par terre devant la clinique, à part ce policier qui avait un fusil à la main, il y avait aussi un hélicoptère qui est arrivé. On se croyait presque dans Apocalypse Now.
C'era l'elicottero sopra, mi ricordo che infatti il rumore dell'elicottero per mesi ha terrorizzato anche
mia fidanzata. Ce bruit a aussi terrorisé ma fidanzée pendant des mois.
Quando sentiva un elicottero ci veniva proprio questa
angoscia. Quand elle entendait un hélicoptère, elle avait cette angoisse liée à Genova.
Il dato di fatto, io non ho mai sporto
en
denuncia compte, contro per questa
je n'ai porté plainte
pour
cette aggression.
Anche perché la mia paura era che
j'avais aussi peur parce que j'étais allé aider une personne qui allait être arrêtée.
Che loro stavano fermando e loro probabilmente avevano non erano in grado di dire. Je me souvenais
pas du numéro de la plaque d'immatriculation de la Jeep.
Perché all'inizio l'ho guardato ma poi come
mais je l'ai oublié ensuite.
È stato un effetto stranissimo.
C'était très étrange.
Ma anche pensavo,
et
poi
puis c'était ma parole contre celle de 8 personnes.
Cioè, non
elle allait valoir quoi ma parole contre
la mia ragazza, che era quella che era stata.
Il n'y avait pas de témoin, à part ma copine, qui voulait arrêter.
Medici, però i medici non hanno
les médecins,
visto
eux, n'avaient pas
cioè
vu ce qui s'était passé précédemment.
Visto dopo quello che
ils ont vu ce qui se passait après.
Per cui anche lì, anche d'un punto di vista giuridico,
d'un point de vue juridique,
magari c'è il rischio che mi becco una
je ne savais pas si j'allais me prendre une condamnation pour agression.
Rispetto alla cosa, perché
ça pouvait être interprété comme ça. Il leur suffisait de dire, non, on voulait arrêter cette personne et il nous a agressés.
Non verosimile, ma di fatto.
Ce n'était pas très vraisemblable,
quindi, la cosa si è fermata
en tout
lì.
Cas,
diciamo
ça s'est arrêté là.
L'esperienza assolutamente
pendant cette expérience très impressionnante, j'ai cru un moment qu'ils allaient me tirer dessus.
Anzi, mi ricordo che
cette infermière, qui avait l'air
slave.
J'ai pensé qu'elle avait dû vivre des situations de guerre.
Les flics me disaient,
lève-toi, enfoiré, je t'ai vu, montre ton visage. J'avais une casquette noire, je l'ai enlevée. Elle était pleine de sang d'ailleurs.
Stai giù se non ti sparano, ma non aveva un accento italiano. Però
et j'allais me lever quand elle a répété, reste couché, sinon ils vont t'abattre. Sa façon de me dire ça m'avait beaucoup impressionné.
Il ricordo ce l'ho piuttosto.
J'ai un souvenir encore plus lucide de tout ça.
Ancora rispetto alla cosa. Purtroppo poi con tutti gli eventi che
malgré
sono successi,
tous les qui sont arrivés,
militanza,
j'ai continué
caso,
à militer.
Questo, ma devo ammettere che è stata una situazione
mais
dove
je dois admettre que c'était une situation où, selon moi, la folie a dominé. Quand j'ai essayé de parler à ces policiers, je disais, mais on n'a rien fait. J'aurais donné mes papiers. Mais eux, ils agissaient en automatique. Ils continuaient à agir. Je ne voyais que leurs yeux, pas leur visage. L'action a été très rapide. Le tout a dû prendre 15-20 secondes, et puis ils sont partis.
Tra l'altro, d'un autre côté, l'histoire
de la portière était bien plus grave.
Lì, in quel momento, se non
si je n'avais pas réussi à m'agripper, je faisais un vol plané de 2 ou 3 mètres sur du ciment.
Cioè, senso, caduto,
ça aurait pu être encore pire avec une chute pareille.
Fucile,
en tout cas,
sont
le retour, le fusil,
boh,
l'hélicoptère, ce sont des sensations très fortes.
Français, on se trouve au square de la Chiesa, qui était un square qui est proche du littoral. Dans ce parc-là, il y avait l'intérêt que se trouvaient à la fois des chrétiens, à la fois des gens qui étaient des mouvements pacifistes, etc. Il y avait aussi quelques Allemands, c'était assez coloré. Donc ça, c'est pour situer le contexte dans lequel on s'est retrouvé. La manif, ça, comme je l'ai dit, elle était annoncée comme devant, en tous les cas, être assez explosive. C'est-à-dire que même il y avait les déclarations préliminaires de Casarini et de Tutte Bianche qui faisaient des démonstrations. Ils avaient même fait des conférences de presse dans le stade parce que eux, ils logeaient dans un stade qui avait été mis à disposition par la municipalité de Gênes pour accueillir les manifestations anti-G8. Et là, je me rappelle, ils ont donné des conférences de presse où ils montraient quels dispositifs ils allaient mettre en place pour essayer de forcer et rentrer dans la zone rouge. Donc ça, c'était le contexte. Donc on est arrivé dans ce contexte-là. Simplement, ce qu'on a trouvé comme état de choses, c'était un état de siège. Effectivement, au niveau militaire, ils avaient eu un déploiement inimaginable qu'on ne suspectait même pas. Néanmoins, le vendredi, la première manifestation, elle a été vraiment explosive. Elle a été assez violente tout de suite et elle a été assez éclatée sur le territoire. Il n'y avait pas un cortège vraiment très très défini, il y avait des tas d'îlots d'affrontements qui entouraient même l'ensemble de la zone rouge. Et ce qui était remarquable pour moi, c'est qu'effectivement les flics, ils avaient décidé de mettre la rouste. Ça c'était évident. Et mettre la rouste à tous les manifestants. Il y avait d'un côté les Black Blocs et puis les émeutiers ordinaires, qui eux sont toujours assez mobiles et savent assez se déplacer dans ces circonstances-là. Et de ce point de vue-là, relativement insaisissable, mais on a vu donc ces groupes-là parasiter en quelque sorte des cortèges qui étaient, par exemple, le Pink Movement, c'est-à-dire des mouvements pacifistes, et les flics prennent prétexte pour mettre des trempes monumentales à ces personnes-là qui, eux, étaient là, qui levaient les mains, tu vois, en signe de non-violence, et vraiment, ils les cognaient de manière complètement démente. Donc on a vu toutes ces choses-là, jusqu'à la mort de Giuliani, et surtout le phénomène, à mon avis, le plus marquant, ça a été l'école Diaz. Et là, on a eu très peur, parce qu'à l'école Diaz, il n'y avait aucune raison d'intervenir comme ils ont intervenu. Pour nous, on l'avait analysé comme une rupture du pacte démocratique, en quelque sorte. C'était l'état de siège, c'était une pure dictature militaire qui imposait sa chape. Et je crois que le moment où nous, on a eu le plus peur, c'est après Diaz, c'est pour sortir de Gênes. D'une façon paradoxale, on s'est senti gibier de sous tout ce dispositif. Et on a vu des flics, c'était vraiment, vraiment des chiens, des mecs qui avaient perdu leur humanité. On a vu des situations invraisemblables. Je terminerai là-dessus, c'était le vendredi soir, en fin de journée, tout le monde se décide à se replier vers le stade où il y avait les Tutte Bianche. Et là, on voit vraiment un escadron de flics qui avait été préservé de la journée entière, qui était en pleine forme et qui ont commencé à pourchasser. au trot comme ils savent le faire, et sur un kilomètre et demi. Et là, tout le monde était fatigué, et donc forcément, les forces s'épuisaient. Et là, tous ceux qui couraient pas assez vite ou qui couraient pas assez longtemps, ils se faisaient ramasser, ils se faisaient ratatiner. Donc là, ça nous a confirmé que l'intention fondamentale, c'était de mettre une rouste.
Et io aggiungo soltanto che io mi sono trovata nello spezzone di mezzo.
J'étais vers le milieu du cortège de la manifestation du samedi.
Noi siamo partiti con un amico il venerdì
sera. On était parti avec un ami le vendredi soir après avoir appris la mort de Giuliani.
E quindi
on s'était donc décidé à partir au dernier moment.
Va bene, partiamo. E parlando di corteo pacifico, noi siamo partiti.
À propos des cortèges pacifiques, nous on a rejoint le groupe Scout.
Abbiamo raggiunto il gruppo Scout superando.
On les a rejoints en dépassant une bonne partie des cortèges.
Et c'erano degli spezzoni di corteo che avevano un
certains cortèges avaient un service d'ordre plutôt costaud.
Non era lo spezzone
italiano. Ce n'était pas les Italiens.
Altre che invece era un corteo in movimento, ma non c'era il servizio.
La manifestation avançait, mais il n'y avait pas le service d'ordre à l'ancienne, qui était très important.
Et quindi lasciava
tout restait tout très à découvert. Au fur et à mesure qu'on avançait,
da tutte le parti, da tutte le parti, da tutte le stradine, tutte le stradine.
C'est vrai, de tous les côtés, toutes les rues étaient bloquées par des militaires, des policiers, des carabiniers en tenue anti-émeute.
À un certain point, abbiamo iniziato a sentire.
À un certain moment, on a commencé à entendre des gens hurler.
Ma a un certo punto hanno lanciato
on avançait, mais ils ont commencé à lancer des lacrymogènes. Ils en ont lancé énormément.
La folle
au point que la foule a commencé à se disperser, mais on ne pouvait aller nulle part.
Parte,
d'un côté, il y avait la mer, de l'autre, les rues étaient bloquées par les militaires.
Les
lacrymogènes étaient plutôt urticants. Je n'arrivais plus à respirer, je ne voyais plus rien.
Non riuscivo più a respirare, non riuscivo più a vedere niente.
On m'a donné des mouchoirs à mettre sur les yeux pour pouvoir voir. J'ai fini par ne plus pouvoir respirer. J'étais sur le point de tomber. Quelqu'un m'a agrippé, m'a tiré. Je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas pu le remercier, je ne sais pas qui c'est. Il m'a tiré et a réussi à m'amener sur cette petite place de l'église. Et après, il y a la mer. Personne n'est venu là, ni la police ni les militaires, personne n'est venu nous chercher.
In altri spezzoni, gente che comunque andava poi verso la spiaggia in qualche modo.
Mais je sais qu'à d'autres endroits, ceux qui tentaient d'atteindre la plage ont été rattrapés par les militaires et frappés violemment.
Per cui quando ci siamo un po'
quand on a pu récupérer de notre frayeur,
siamo ritornati,
on est retourné dans la rue.
Abbiamo camminato,
on a marché encore un peu,
pezzo, ma di nuovo.
Mais les lacrymogènes sont revenus
et, nuovo,
et on a dû faire demi-tour vers la petite place et ne plus en bouger.
La sensation, di una repression,
la sensation d'une répression vraiment forte.
Io l'ho sentita molto di più quando invece
je l'ai mieux senti quand mon ami et moi sommes allés à la gare pour reprendre le train et rentrer à Bari.
Et siamo rimasti bloccati.
On est tous restés bloqués dans le train.
In tanti, con le porte chiuse,
porte fermée,
i bagni
toilettes
chiusi,
fermées, pendant au moins deux heures avant de réussir
a partire. Et arrivavano quindi messaggi e telefonate di quello che stava.
Des messages et des coups de téléphone arrivaient sur ce qui était en train de commencer
sul treno
à l'école Diaz. Il y avait une atmosphère très pesante dans le train parce qu'on restait bloqués dedans.
Siamo rimasti lì bloccati.
On ne pouvait ni descendre ni monter. Il n'y avait plus d'accès. Le train était vraiment plein de monde. Vers 23h30, minuit, ils nous ont laissés partir. Dans le train, là où j'étais en tout cas, il ne s'est rien passé. Par contre, on entendait ce qui se passait dehors.
E quindi con la paura di quello che magari poteva accadere anche all'interno del treno.
On avait peur de se demander ce qui pouvait se passer dans le train pendant qu'il était bloqué. C'est tout.
E basta, poi tutto il resto io l'ho sentito e l'ho visto quando
sono ritornata. Le reste, je l'ai entendu et je l'ai vu à mon retour dans les Pouilles.
E comunque Les premières
images
et les informations,
qui arrivaient par la télévision montraient des saccages et dévastations de manifestants qui n'avaient pas été frappés,
ou de Black Bloc. Et quindi si faceva di tutta l'erba un fascio.
Il y avait alors tout un discours comme quoi ils dévastaient et détruisaient la ville. C'est le message qu'ont également perçu mes parents. J'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas ça, que les choses s'étaient passées différemment.
Però era, è stato molto difficile, cioè ho combattuto per diverso
ça
tempo.
Ça a été très dur d'expliquer que ça ne s'était pas passé
così.
Comme ça.
Cioè, questo è quello che vogliono farvi vedere,
c'est
ma
ce qu'ils veulent vous faire croire.
Così. C'è stata una repressione.
Mais il y a eu une répression très forte. On a vraiment eu la sensation d'une suspension des droits.
Anche, ripeto, fortunatamente non avendo vissuto tutto quello che
j'ai eu la chance de
Diaz,
ne pas avoir vécu ce qui s'est passé à la Diaz et tout le reste. C'était la sensation d'une violation, d'être violenté dans sa pensée, dans son corps, dans tout. Je répète, tout s'est bien passé pour moi, il ne m'est rien arrivé. Mais pour aller plus loin, il y a aussi cette sensation de peur quand j'entends un hélicoptère et quand je passe à côté d'un consulat à Milan et que je vois des mitraillettes en main. Ça me fait encore peur aujourd'hui et je n'arrive pas à regarder les images des vidéos, les plus crues, les plus violentes. Je n'arrive toujours pas à les regarder parce que ça me fait encore peur, rien qu'en en parlant. C'est déterrer des faits qui sont très douloureux et violents. On a la sensation d'avoir vraiment subi une violence. Voilà.
Popolo del paese, sentite, sentite, sentite. Per ordine di Sua Eccellenza, lo fascista, lo federale di Foggia, tutte le femmine che fanno lo figlio sono premiate. 3.000 lire per ogni figlio. E se poi li chiamano Benito, doppio premio e favorito. Hitler e Mussolini sono stati due assassini. Hanno voluto fare la guerra per dominare mare, cielo e terra. Allo tempo degli fascisti attaccavano i manifesti. Le donne hanno figlia, lo popolo ha da aumentare. Quella donna che hanno figliera gli va a pregare santo la zera. Per un figlio 3.000 lire, se era mascolo 5.000 lire. Chi lo chiamava Benito, doppio premio e favorito. So passate poco d'anni, lo paese pieno di guagliule, tutti scavezzi e affameti, quello premi e ci arruvneti. A lo sangue di chi te morto, che te pozze nacci d'inganna. Allo sangue di chi te morte, mica te pozzo nacci d'inganna. Uè che grossa fregatura con mamma fa questi creature.
Je m'appelle Nini, je viens de Palermo et en 2001 j'étais à Gênes avec des copains et on était une petite bande qu'on avait très envie d'aller et on ne savait pas trop avec qui. Donc finalement on est parti avec un groupe de la gauche, c'était les jeunes du Parti démocratique, qui à l'époque ça s'appelait différemment. On a réussi finalement à trouver les billets, on est parti avec eux. Donc on arrive à Gênes, d'abord on faisait un camping pas loin. On est arrivé à Gênes le vendredi, une fois là-bas on s'est tout de suite séparé des gens avec qui on était allé. Parce qu'évidemment on n'avait pas grand-chose en commun. Et on a essayé de rejoindre les cortèges. Et en fait on a passé tous les vendredis sans pouvoir rentrer jamais vraiment dans un cortège. Et parce que le niveau des conflits c'était trop grand, ça pétait dans tous les sens. Moi j'avais 18 ans, j'étais pas si jeune, mais j'ai resté très marqué par des petits trucs. L'intention précise et nette, la perception qu'en fait la police là-bas avait vraiment la volonté claire et nette de pas seulement faire peur aux gens, mais de chercher vraiment des morts. À un moment, je me rappelle, on était dans une espèce de corniche à Gênes et il y a eu toute une colonne de voitures blindées qui devaient traverser et qui, en fait, ils ont foncé en faisant aucune attention au monde qu'il y avait là-bas, genre à 70 km/h, un truc, en cherchant vraiment de... presque de prendre des gens, quoi. Ça, c'est cette perception-là, ça quand même, ça marque beaucoup, ça change. C'est un truc qui reste énormément. Et puis, à propos de ce que tu dis, la lecture qu'ils ont donnée de Black Bloc, bah, ça, quelque part, pour moi, c'est pas du tout nouveau. C'est une histoire qu'on connaît très bien en Italie. La gauche institutionnelle a toujours... résolu la lecture de la situation de façon très simple en disant qu'en fait il y a toujours des violents, des autonomes qui veulent foutre le bordel, mais c'est pas du tout nouveau, ça a toujours existé ça, mais à Gênes par exemple les cortèges dans lesquels finalement Carlo Giuliani a été tué, ça a été une espèce de petite erreur quoi. Il y avait une colonne des CRS qui avait été envoyée pour aller réprimer les Black Blocs qui attaquaient une prison. Et dans la chaîne des commandes, on fait que, comme par hasard, cette colonne des carabinieri s'est retrouvée à devoir traverser les cortèges des disobédientes. Et ça, c'est quand même... il y a une régie. C'est pas possible que dans une manifestation tellement importante, la chaîne des commandes de l'armée puisse avoir tellement peu de connaissances du lieu, de roue. C'était une piège, d'après moi, et pour ce que moi j'ai compris. On est parti vendredi soir parce qu'on avait tous des crises d'angoisse, parce que... En plus, il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore la majeure âge, ça compliquait un peu l'affaire. Donc finalement, le vendredi nuit, on a décidé de rentrer au camping où on était avant. Personnellement, chacun avait compris que c'était plus faisable de rester là-bas. Parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était tout à fait possible d'être tué.
Dans la conception de l'organisation du G8, c'est-à-dire tout le centre-ville, ils se l'étaient approprié, ils avaient mis des barrières tout autour. Et donc, c'était devenu presque l'objectif que de pénétrer. Même attaque, à donner là-dedans. Il y a même des tas de mouvements démocratiques pacifistes qui avait donné comme but que de franchir les barrières et pouvoir rentrer dans la zone rouge. Donc il y avait quand même tout ce contexte-là. Et le Black Bloc, ça a été une fiction. Moi, je pense que ça a été une réelle fiction, parce qu'il y a eu énormément d'émeutiers.
Il y a eu quelques dizaines de milliers d'émeutiers, je pense. Et des gens qui n'étaient pas en noir, c'est des gens qui étaient habillés élégamment, des mecs qui se sont amusés, ils se sont amusés à faire, voilà. Donc il y avait aussi, c'est-à-dire presque la constitution d'une société, en quelque sorte, à quel moment où tout le monde se met en commune pour en découdre, parce que quand même, ce qui se passait dans ce G8 allait générer un certain nombre de décisions abjectes et qui ne pouvaient pas se passer forcément tranquillement. Donc voilà, la violence était une des hypothèses. Il y en avait une autre hypothèse qui était la plus pacifique. Et là, ce que j'ai dit, effectivement, ils ont fait voler toutes les règles du droit, c'est qu'ils ont voulu interdire la manifestation pure et simple de toute opposition. Ça, c'est clair.
A 20 anni è quasi un obbligo, quasi un dovere. Piacere di incontri a grappoli ideali identici essere avere.
Ainsi prend fin cette émission. Nous remercions les radios pour leur soutien à leur diffusion. Vous pouvez vous connecter sur notre site www.comité-soutien-vincenzo.org et Facebook @soutienvincenzo. Vous trouverez sur notre site une importante documentation sur Gênes 2001, mais aussi sur le mandat d'arrêt européen. C'était une émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi de Rochefort-en-Terre. A bientôt, merci.
Dentro gli uffici, uomini freddi discutono la strategia e uomini caldi esplodono un colpo secco, morte e follia. Si rompe il tempo e l'attimo. Per un istante resta sospeso, appeso al buio e al niente, poi l'assurdo video ritorna acceso. Marionette si muovono cercando alibi per quelle vite, dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite. Genova non sa ancora niente, lenta agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane spenta Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene, Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno e chi ha la ragione. Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato, perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La salvia splendens luccica, copre un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Dal bar Caffè Grappini, verde un'edicola, vende la vita. Resta a mare indelebile. Resta mare indelebile, resta mare indelebile, la traccia aperta di una ferita.